Bonjour.
Bonjour.
Je suis directrice d'école élémentaire à côté de Créteil. Bon, ben, merci d'abord pour votre, ce que vous nous avez dit. Ça fait du bien à entendre. C'est formidable. J'avais souligné hier à plusieurs occasions la difficulté de travailler dans ce sens-là avec les professeurs du second degré. Et je trouve que c'est très très long. Enfin, je suis en REP+, donc ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble avec les collègues du second degré. Je pense effectivement que tant que ce ne sera pas dans la formation initiale, ce sera très compliqué. Et par rapport aux collègues du premier degré, il y a beaucoup de collègues qui sont tout à fait persuadés de ce que vous nous avez dit par rapport à cette façon d'apprendre la langue. Et sur la production d'écrit, quand vous dites finalement le résultat, c'est qu'ils en font de moins en moins, c'est un problème par rapport à la correction en fait. Moi j'aimerais savoir ce que vous pensez de ça. Enfin, quelles sont les préconisations dans ce domaine? Est-ce que si on écrit beaucoup, est-ce que ça veut dire que les professeurs corrigent beaucoup, ou est-ce que c'est une autre façon de faire, sachant qu'ils ne peuvent pas tout corriger, même s'ils ciblent une compétence particulière dans l'écriture? Est-ce que c'est ça le but? Est-ce que c'est à chaque fois ils produisent, on corrige, ils produisent, on corrige, ou est-ce qu'il y a une autre façon de faire?
Oui, c'est tout à fait juste. La question de l'écriture, de toute façon, est toujours liée au temps que ça prend en classe et au temps que ça prend au professeur, effectivement. Alors, et puis elle est liée à un vrai défi, c'est celui de faire réécrire les élèves. Ça, on sait bien que on a beau essayer toutes les approches, ça reste difficile, y compris au lycée, quand les élèves nous supplient de récupérer leur brouillon, en général, c'est la version définitive au crayon de papier. Donc, cette compétence-là de réécrire n'est pas acquise. Pour répondre à votre question, donc, vous avez pointé un premier élément de réponse qui est effectivement cibler un point particulier dans la correction. Et puis, pour aller plus loin, dans les nouveaux programmes du cycle 3, du coup, sans doute les connaissez-vous fort bien aussi, il y a un syntagme que je trouve très très intéressant et qui est « construire une posture d'auteur ». C'est nouveau, ça apparaît. Du coup, si les élèves ont si on se propose comme objectif d'aider les élèves à construire leur propre posture d'auteur, ça veut dire que nous ne sommes plus correcteurs. Nous sommes éditeurs, quelque chose comme ça. Le regard ne va pas tout à fait être le même, et les injonctions en termes de correction non plus. Une des choses qu'on a parfois travaillé avec des professeurs, c'est le fait de, quand on choisit de ramasser l'écrit d'élèves entre un jet et un autre jet, ça va être de se donner comme consigne de correction, je pose une ou deux questions à chaque élève. C'est-à-dire, pas du tout une posture de correction, mais simplement une interrogation posée à l'élève, et répondre à cette question en reprenant son texte sera l'amélioration du texte par l'élève. Par exemple, un élève qui fait tout un texte et puis un personnage n'apparaît qu'une fois, on ne comprend absolument pas qui c'est. Traditionnellement, on aurait mis d'où sort ce personnage, ce n'est pas cohérent, etc. Là, ce serait ce personnage m'intéresse, peux-tu m'en dire plus? Et en fait, en posant une seule question, effectivement, on gagne par. Si on a ça pour unique consigne qu'on se donne pour corriger, ça va peut-être gagner du temps, mais ça ne répond pas complètement à votre question. Hein. Mais simplement, très souvent, c'est que les professeurs ne refusent pas de prendre un temps important. Simplement, ils ne peuvent pas le prendre 10 fois. Donc ça serait peut-être une première fois. L'autre réponse, c'est aussi que ces travaux successifs et ce retour sur les écrits peuvent se faire grâce à la collaboration. Ce que fait le professeur là en tant qu'éditeur peut être le travail d'un autre élève. Et les relectures successives sont importantes. Et ça me permet de dire que j'ai oublié de dire à quel point on est invité dans les nouveaux programmes, et ça me paraît tout à fait important, de faire coïncider avec le travail de l'écriture, le travail de la langue au collège aujourd'hui et au cycle 3.
C'est l'attente institutionnelle par rapport à l'évaluation. On ne va pas pouvoir remplir sur le livret de manière. Enfin, ça va prendre beaucoup plus de temps. Enfin, c'est vrai qu'apprendre pour comprendre, ça prend plus de temps que forcément produire des écrits qu'on va pouvoir noter ou annoter et pour lesquels on va pouvoir remplir un certain nombre de compétences sur le livret d'évaluation.
C'est vrai.
Disons que ce temps d'apprentissage dont on est persuadé qu'il est parfaitement nécessaire, et de réappropriation de la langue par les élèves pour le plaisir et pour manier la langue avec plaisir, moi je trouve totalement incompatible avec la demande institutionnelle.
Alors, du coup, je vais être un peu gênée pour vous répondre en ce qui concerne le second degré. Le premier degré, pour le second degré, il me semble qu'en fait, c'est vraiment nous qui choisissons quelles compétences on évalue et à quel moment, du coup, on évalue. On peut dire aux élèves qu'on évalue, à ce moment-là, simplement la capacité à prendre en charge une remarque pour améliorer un texte. Et finalement, la perspective ne va pas être l'évaluation finale d'un travail écrit abouti. Enfin, elle va l'être de temps en temps, mais pas toujours. Mais je comprends, oui, c'est assez difficile. Simplement, d'une manière générale, de toute façon, il est extrêmement compliqué d'être enfermé par toutes sortes de grilles d'évaluation, puisque je pense que le seul qui est à même de formuler la compétence travaillée, c'est le professeur dans la négociation avec ses élèves même. Formuler cette compétence travaillée comme dans le livret personnel de compétences, ça n'a aucune espèce de valeur pédagogique pour l'élève, puisque nous-mêmes, on ne comprend pas toujours ce qui est visé. Quant aux élèves, ça ne les concerne pas. Énoncer être au clair avec la compétence travaillée, c'est dans la négociation avec l'élève que ça se joue, il me semble. Enfin, tout ça, c'est, vous le savez bien sûr, mais oui, la difficulté que vous pointez est réelle.
Éric Gougeot, principal en REP Plus à Toulouse et ancien prof de lettres. Juste par rapport à l'apprentissage de l'écrit, aux pratiques de l'écrit, vous avez dit, à mon avis, l'essentiel quand vous avez parlé de votre démarche de la lecture analytique. Finalement, l'objectif, c'est de travailler quotidiennement sur l'oral et la production d'écrit, qu'elle soit évaluée ou pas. Qu'elle soit finalement corrigée ou pas à chaque fois. Il peut y avoir des productions à chaque cours par les élèves, en autonomie, en petits groupes, avec au bout du compte des textes qui sont, lorsqu'il y a des bilans, qui sont construits ensemble, en commun, qui peut être retravaillé avec l'ensemble de la classe. Et au fur et à mesure, l'objectif c'est de travailler plus sur des habitudes sur des exercices typiques, des typologies d'exercices. Je pense que pour avoir travaillé de cette façon-là, j'ai vu l'évolution des élèves parce qu'on crée des habitudes régulières de mise en activité d'écriture.
C'est très clair, hein. La naturalisation du geste d'écriture est extrêmement importante et la préconisation d'écrire fréquemment l'est tout autant. Effectivement, ça n'est pas nécessairement évident, certes, mais ça, je pense que c'est vraiment une très grande priorité. Et ce que vous disiez là sur le fait que, en fait, la fameuse question de la trace écrite, le fait qu'elle s'élabore avec les élèves, etc. Ça, c'est une chose intéressante parce que c'est finalement très difficile, y compris les professeurs qui sont persuadés qu'ils ont impliqué les élèves dans la rédaction de la trace écrite, très souvent, en fait, sans s'en rendre compte, formulent eux-mêmes, reformulent pour les élèves. Donc c'est un geste pédagogique assez difficile, en fait, que de vraiment faire travailler les compétences de formulation et de rédaction à l'occasion d'une trace écrite collective. Et ça, c'est effectivement important de donner ça comme parler de grille d'auto-évaluation au professeur, c'est quelque chose sur lequel le professeur peut facilement s'auto-réguler. Je parlais du questionnement ouvert, mais aussi finalement, vraiment, est-ce que là c'est l'élève qui a formulé ou est-ce que c'est moi? Parce que ça va très vite de reformuler pour l'élève. Et on le fait parce qu'on est bienveillant, c'est une façon de confirmer ce que l'élève dit. Et ça, en termes de communication, c'est évidemment tout à fait positif. Oui, ce que tu dis est intéressant, tu dis que. Sauf qu'en fait, on reformule pour lui. Donc parfois, ça va être judicieux. Parfois, on va passer à côté de la compétence qu'on visait, sans s'en rendre compte. Oui, c'est la question de la trace écrite. Une des premières choses que je dis au professeur de la trace écrite, c'est réfléchissons à ce que signifie trace. C'est ce qui reste du passage. Le passage, c'est le plus important. Et le passage ne va pas se voir dans le cahier, et c'est comme ça, c'est pas grave. Mais effectivement, il y a cette conscience professionnelle qui fait qu'il faut que ça se voit dans le cahier. Et comment faire avec une séance qui n'est menée qu'à l'oral pour que ça se voit dans le cahier? Et ça, c'est quelque chose. Le fait de se défaire de cette obligation morale est assez compliqué. Oui.
Oui, oui. Bonjour. Donc, je suis donc conseillère pédagogique et j'enseigne en Guyane. Aujourd'hui, je suis là pour apporter en quelque sorte un témoignage. Donc, merci pour votre exposé. Il a bien mis le droit sur les points précis donc de la configuration guyanaise, une configuration qui a ses spécificités. Et je voudrais ajouter aussi
que vous êtes en premier degré, madame.
Vous êtes dans le premier degré et je suis j'interviens également en REP+ dans le second degré. Donc je fais des formations également au collège, pour le collège. Et un point précis aussi qu'il faut pas négliger, c'est le turnover au niveau des enseignants. Oui. Donc les équipes bougent beaucoup et on a du mal à mettre en place des projets pour pouvoir les faire durer à plus ou moins long terme. Donc ça aussi c'est un élément qui est important.
Ce qui va être d'ailleurs, le très très gros bémol, parce que je disais avec un enthousiasme tout institutionnel que la réforme du collège c'est merveilleux pour la Guyane, avec les projets interdisciplinaires, etc. Mmh. Sauf que ces projets-là, les fameux EPI, comme ça se met en œuvre une année avant, ça va être en fait une horreur, puisque les équipes sont parfois 100% renouvelées. Mais ouais. Oui, c'est sûr, c'est une difficulté majeure.
Oui, j'ai vécu l'expérience cette année, donc on a mis en place des projets et en restant sur le même réseau, donc en tant que formateur, donc on ne sait pas si on va pouvoir poursuivre comme on a commencé, dans la mesure où on ne sait pas quels seront les collègues qui seront affectés sur les postes.
Absolument, c'est le tonneau des Danaïdes, la formation en Guyane.
Voilà, il y a cela aussi. Il y a aussi le fait que la population enseignante, beaucoup viennent de l'extérieur, donc il y a très peu d'enseignants issus de la Guyane. Donc il y a une méconnaissance entre guillemets aussi des cultures, puisque on a plusieurs ethnies sur le territoire. Donc il y a une méconnaissance aussi des cultures et par là même une méconnaissance aussi des élèves, de la culture des élèves. Mais ça tend quand même à disparaître, puisque comme vous l'avez dit dans les réussites et les pistes qui sont encourageantes, donc aujourd'hui on voit qu'il y a une valorisation justement des langues maternelles, alors qu'avant c'était vraiment le parler français à l'école, parler français dans la cour, parler le français à la maison.
Oui, dans un avant pas si ancien,
tout à fait pas si ancien. Mais c'est vrai que on voit maintenant qu'il y a une valorisation donc des langues maternelles, et on préconise justement l'entrée des langues maternelles à l'école, notamment dans le premier degré, puisque j'ai travaillé beaucoup dans le premier degré, et ça voilà, notamment par des projets comme vous avez dit, donc complètement informels. Donc ça aussi, donc ça porte ses fruits.
Oui, ça c'est clair. Je pense que cet aspect-là, c'est plutôt Sophie qui le détaillera davantage tout à l'heure.
Moi, c'est un commentaire. Je vais essayer d'être rapide parce que ça m'a suscité beaucoup, beaucoup de réflexions, tout ce que vous avez dit. Merci pour votre intervention. Moi, il me semble que la langue, c'est le lien social. Hein, je pense que c'est clair. Dans les régions insulaires que je ne connais pas et rurales que je connais mieux, en fait, il y a des choses qui existent, qui sont quand même assez positives, qui sont porteuses d'espoir. Je me détache là du cadre de la réforme des collèges. Je pense à la transversalité des compétences, à savoir pour qu'un élève se sente motivé, souvent la conseillère d'orientation propose des ateliers de remotivation. L'enseignante de lettres peut s'y inclure en proposant des petits projets autour d'un point, mais alors qui paraît très périphérique, mais qui va lui permettre de nourrir son cours par ailleurs. La liaison école-collège est importante, tout comme la liaison au-delà collège-lycée. Et j'ai une question. Je voudrais savoir, en fait, en Guyane, comment est géré le décrochage, parce que la langue est souvent un des facteurs du décrochage scolaire. Vous avez cité le mot tout à l'heure, et pour moi, il importe. Je voudrais savoir, en fait, comment il est géré, ce décrochage.
Alors, il y a les mêmes dispositifs institutionnels qu'ailleurs, c'est-à-dire que Focal fonctionne très bien en Guyane depuis 2 ans, avec des projets vraiment importants pour aller chercher de façon individualisée chaque décrocheur. Avec la personne qui est en charge de Focal a réussi à obtenir des fonds sociaux européens pour faire des projets vraiment ambitieux pour eux. Il y a eu un dispositif aussi qui s'appelle le lycée de la deuxième chance, qui a été mis en place dans le grand lycée de Kourou, avec de grandes difficultés. Hein. Faudrait pas avoir un discours un peu Béa sur la question. Ce lycée deuxième chance consistait à faire préparer un baccalauréat littéraire donc à des jeunes adultes ayant décroché depuis assez longtemps, et puis très souvent avec des situations familiales compliquées, etc., des enfants, enfin pas forcément compliquées, mais en tout cas compliquées à faire coïncider avec les temps de cours. Ça a été extrêmement difficile, mais en tout cas, ça existe. Le lycée Deuxième Chance, il y a la plateforme de prévention du décrochage scolaire. Tous ces dispositifs-là sont mis en place et sont vraiment plutôt actifs. Mais c'est vrai que l'enjeu est énorme. Mais puisque, juste me permets, pour vous dire, on cherche vraiment une forme de grande sincérité dans les recherches qui sont menées. C'est au cours d'une réunion focale qu'une collègue avait invité en fait un légionnaire pour que la Légion, qui est très présente en Guyane, explique comment il faisait pour faire acquérir la langue en 3 mois à un légionnaire ukrainien qui n'avait jamais entendu parler français. Alors vous allez voir, tout n'est pas transposable puisque l'école n'est pas la Légion, et heureusement, mais quand même. Alors il y avait 3 choses qui ont été évoquées. C'était très carré, très clair, hein. Pardon pour les préjugés. C'était les chants. Alors, je ne sais pas quel chant par contre, hein, mais c'était les chants qui revenaient très très souvent pour favoriser l'apprentissage de la langue française auprès de ces nouveaux légionnaires. C'était un système de tutorat. Chaque néo-légionnaire était mis en lien avec un légionnaire maîtrisant la langue, mais l'ayant lui aussi apprise. C'est ça qui est intéressant. Et ayant aussi le français comme langue distante, comme langue seconde et distante. Donc le tutorat par un légionnaire parlant français et ayant l'expérience de l'apprentissage du français. Et puis, ce qui sans doute se rapproche d'une méthode communicationnelle avec des sortes de rituels. Donne-moi ton béret, je te donne mon béret, etc. Vous savez, des choses très répétitives. Voilà. Qui étaient mises en place, ces 3 choses, chanter, tutorer et répéter des rituels. Donc pour vous dire qu'on va quand même vraiment chercher tout ce qu'on peut, toute l'aide qu'on peut trouver, mais le décrochage scolaire est quand même... Alors le problème c'est qu'il est tellement massif, j'ai plus en tête le chiffre, je sais pas si Sophie tu peux m'aider là-dessus, mais le nombre de jeunes qui sortent du système scolaire sans diplôme en Guyane... D'accord, tu vas le donner. Enfin, oui, effectivement, c'est massif. Et donc, on peut avoir l'impression que c'est un peu une goutte d'eau dans l'océan, mais les choses se développent là aussi.